Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir avec le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou qui viendra nous parler ce soir du boom de la chirurgie esthétique, vous comprendrez pourquoi. Et à 19h20 dans le Club des Idées, grand entretien ce soir avec Jean-Luc Mélenchon, candidat déclaré à l'élection présidentielle qui publie « Député du peuple humain » aux éditions Robert Laffont. Voilà pour le programme, d'abord toute l'info avec le journal de Christophe Lamarre. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Calvados, de Marseille, de Lille. C'est parti, enfin.
C'est vendredi, c'est parti, c'est le week-end. À Quiberon, les commerçants se félicitent déjà de l'arrivée des touristes. Les réservations font le plein quasiment partout. Reportage dès le début de ce journal.
Ce week-end prolongé de l'ascension permet aussi d'anticiper ce qui va se passer cet été. Pourra-t-on se faire vacciner sur son lieu de vacances, par exemple? La réponse serait plutôt non. Explication dans quelques secondes.
La chasse à l'homme continue dans les Cévennes pour retrouver la trace de l'auteur présumé d'un double meurtre. Près de 300 gendarmes mobilisés et des habitants confinés chez eux.
Air France et Airbus seront jugés pour homicide involontaire dans le crash du Rio Paris. La catastrophe avait fait 228 morts. Les familles sont soulagées. Il y aura un procès.
Roland-Garros sera le premier événement sportif majeur à accueillir du public. Le tournoi de tennis pourra accueillir jusqu'à 13 000 spectateurs, mais le pass sanitaire sera indispensable. Et puis le football, première demi-finale de la Coupe de France ce soir. Montpellier accueille le PSG, une coupe très importante pour les Parisiens.
Et puis la météo avec Anissa Dadi, c'est une journée humide et fraîche qui nous attend demain.
Oui, avec des pluies sur les trois quarts de la France. Demain, des températures en baisse sur la moitié nord. Une région s'en sort bien, elle est au bord de la Méditerranée. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Allez, il y a ceux qui sont encore sur la route et sans doute dans les bouchons. Cela ressemble à un vendredi, mais nous sommes bien mercredi. Surtout si vous habitez l'Île-de-France, la journée était classée rouge par Bison Futé. Et puis, il y a ceux qui sont déjà arrivés sur place pour profiter de ce long week-end de l'Ascension. Et sur place, Charles Guyard, eh bien tiens, il flotte comme un parfum de grandes vacances.
Oui, depuis ce matin, Quiberon a presque en effet retrouvé son rythme de saison haute. Voitures, bus, vélos et piétons, charge à Jérémy, chef d'escale de la compagnie Océane, de gérer au mieux ce flot ininterrompu qui déferle vers le port, direction l'un des bateaux en partance pour les îles Bretonnes, et gare à ceux qui n'auraient pas déjà acheté leur ticket.
Tout est complet pour Belle-Île, à part s'il y a des désistements, parce que niveau météo, il y a encore un petit peu de pluie attendue.
Un temps certes capricieux, mais loin de décourager les nombreux visiteurs comme Luc et Ronan.
C'est une bouffée d'air. Le premier week-end de déconfinement, je crois qu'on va avoir beaucoup de monde.
Ouais, on avait réservé, on avait anticipé pour se promener un petit peu.
Se promener ou naviguer sur un voilier de location par exemple est là aussi impossible de prendre la mer sans avoir réservé longtemps à l'avance. Pierre de Locavoile n'a plus rien de disponible.
J'ai plus de bateau. Tous sont loués pour les 4 jours. J'en aurais 10 de plus, je les aurais loués je pense, vu les demandes qu'on a eues.
À une centaine de mètres du port, les commerçants se frottent également les mains à l'image de la belle Illoise où Stéphanie et Brigitte réapprovisionnent les rayons.
Un gros week-end annoncé, donc on fait le plein pour être prêt. Enfin, on est content de se refaire tout doucement.
Et dans la boutique, les clients arrivent vraiment de partout.
Parisiens, Calvados, de Marseille, de Lille. C'est parti, enfin.
Et voilà comment, malgré quelques averses, aujourd'hui, Quiberon s'est presque déjà remis en mode estival au moins, jusqu'à dimanche soir.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, merci à vous. Alors ce week-end prolongé permet aussi d'anticiper un peu ce qui va se passer cet été en termes de vaccination.
Eh bien oui, parce que si l'on peut s'absenter 5 jours sans conséquence pour le protocole vaccinal, c'est franchement plus compliqué évidemment si on est loin de chez soi pendant 15 jours, voire plus. Et c'est exactement ce qui va se passer cet été. Mais Victor Dolande, il faudra adapter ses vacances en fonction de votre date de première vaccination.
Oui, car le gouvernement ne veut pas totalement désorganiser la logistique mise en place depuis plusieurs mois. En clair, même cet été, la règle sera toujours de recevoir sa deuxième injection au même endroit que la première. Donc, si vous voulez partir en vacances le 15 juillet en ayant reçu vos deux injections de Pfizer ou Moderna, il faudra prendre rendez-vous pour la première dose le 3 juin au plus tard. Pour respecter le délai de 42 jours entre les deux doses. Avec AstraZeneca, c'est plus souple car le délai entre les deux doses est de 12 semaines. Voici donc la règle, mais dans le même temps, le gouvernement assure qu'il va allouer davantage de doses aux régions touristiques, notamment pour des vaccinations avec Janssen, qui a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule dose. Une expérimentation est d'ailleurs menée ce week-end en Bretagne et en PACA. 50 000 rendez-vous supplémentaires seront disponibles dans des zones touristiques pour injecter ce vaccin unidose destiné aux plus de 55 ans. Cela pourrait préfigurer ce qui se passera cet été, nous confie un proche du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Merci Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1. Alors on rappelle que tous les adultes de 18 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner sur des créneaux restés libres. C'est la seule mais incontournable condition, il faut prendre rendez-vous la veille pour le lendemain. La traque maintenant qui se poursuit dans les Cévennes pour retrouver la trace du tireur présumé auteur d'un double homicide.
Cet employé d'une scierie s'est enfui dans la forêt environnante après avoir abattu son patron et un collègue. Près de 300 gendarmes sont mobilisés pour le retrouver alors que les habitants de la commune ont été priés de rester chez eux. Il faut dire que le profil du meurtrier a de quoi inquiéter si l'on en croit les détails livrés par le procureur de la République de Nîmes, Stéphane Frangy.
Oui, puisqu'à son domicile, les perquisitions ont permis de mettre la main sur un véritable arsenal, une douzaine d'armes, dont certaines décrites comme très sophistiquées, ainsi que 3300 munitions de tout calibre. Mais ce qui inquiète particulièrement le procureur Éric Morel, c'est une des deux armes que le fugitif aurait actuellement en sa possession.
Une arme longue, et si c'est celle que l'on pense, une arme d'une particulière dangerosité. Qui a une portée de tir d'environ 300 mètres et qui est particulièrement dévastatrice et qui peut être particulièrement précise si elle est munie des appareils de visée qui lui correspondent.
Et on apprend en effet que cet homme de 29 ans nourrissait des espoirs, déçu d'intégrer l'armée, notamment une unité de tireurs d'élite. Le procureur Morel souhaite lui faire passer ce soir un message s'il est toutefois en mesure de le recevoir.
Le seul message, bien entendu, que je peux lui adresser, c'est de revenir à la raison, de déposer les armes. Et parce qu'il le doit à sa famille, qu'il le doit aux familles des victimes, qu'il le doit à sa communauté, de venir s'expliquer dans le cadre d'une reddition pacifique.
Et la traque qui se poursuit avec d'importants moyens dépêchés sur place, hélicoptères avec caméras thermiques, chiens pisteurs, ainsi que l'appui du GIGN.
Merci Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Cévennes.
On se dirige vers un procès dans le crash du vol Rio-Paris. Air France et Airbus devraient être renvoyés en correctionnel 12 ans après la catastrophe qui avait fait 228 morts. Jean-Sébastien Soldaini, cette décision, c'est un espoir à la fois pour les familles de victimes, mais aussi pour les syndicats de pilotes.
Un espoir parce que la dernière décision en date, c'était un non-lieu pour la compagnie aérienne et pour l'avionneur. Les juges avaient considéré qu'il n'y avait pas de quoi caractériser une faute de la part d'Airbus ou d'Air France, notamment au regard d'erreurs de pilotage. C'est pour ça que les syndicats de pilotes apprécient ce revirement. La charge ne pèse plus uniquement sur l'équipage qui était aux commandes. La cour d'appel considère désormais qu'Air France et Airbus doivent répondre de responsabilités indirectes dans ce crash. Laurent Lamy a perdu son frère. Il ne s'attend des plus à une telle décision.
Je n'osais plus espérer qu'on ait un jour un procès. Et donc là, du coup, je reprends espoir. Je me dis, bah non, finalement, c'est pas perdu parce qu'enfin, il y a des personnes, le procureur général et le juge Eiffel qui ont compris qu'il y avait quand même des responsabilités à la fois d'Airbus et d'Air France et que pour nous, c'est important qu'en fait, qu'ils viennent s'expliquer lors d'un procès.
Ce n'est toutefois qu'une étape. Les familles de victimes s'attendent à ce que les procédures se prolongent encore avant un éventuel procès. Airbus a déjà fait connaître sa volonté de se pourvoir en cassation.
Merci Jean-Sébastien Soldaini. Les États-Unis maintenant vont envoyer un émissaire au prochain avec un objectif, parvenir à la désescalade entre Israéliens et Palestiniens, alors que le bilan humain, lui, s'alourdit encore.
Oui, plus d'une soixantaine de morts dans une série de raids et d'affrontements dans la bande de Gaza. L'État hébreu écarte toute idée de trêve ce soir, alors que le Hamas vient de déclencher un nouveau barrage de roquettes vers Israël.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous 19h08 dans quelques secondes, la suite du journal. Des spectateurs à Roland-Garros et un pass sanitaire.
Et puis le PSG compte sur la Coupe de France pour sauver sa saison.
A tout de suite. 19h09, c'est un événement en soi. Roland-Garros va inaugurer le retour du public dans un stade.
Oui, le tournoi est prévu du 30 mai au 13 juin. La question, c'était bien sûr de savoir s'il pourrait accueillir du public et jusqu'à quelle hauteur. La réponse, c'est oui, il y aura des spectateurs. La jauge va d'ailleurs évoluer. 5000 spectateurs dans un premier temps, 13000 dans un second. Tout ça, évidemment, avec un protocole renforcé et strict. Mais Simon Rubin, on va au moins retrouver un Roland-Garros un peu plus vivant.
Exactement, le tournoi qui va accueillir jusqu'à 5388 spectateurs quotidiens jusqu'au 8 juin inclus, et puis même jusqu'à 13146 personnes quotidiennement à partir du 9 juin et pour les 5 derniers jours de compétition. Alors un pass sanitaire sera nécessaire pour se rendre à Roland-Garros, pass sanitaire qui devra attester soit du résultat d'un test négatif, soit d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de rémission. Et puis l'autre élément, c'est le couvre-feu qui sera en vigueur pendant le tournoi. Et là, pas le choix, il faudra évacuer le public en amont, prévient la directrice générale de la fédération, Amélie Oudéa-Castéra.
Au premier changement de côté qui interviendra à partir de 20h30 maximum, peut-être même 20h15, l'arbitre demandera au public de quitter le stade. Et on estime que le fait qu'à 45, les portes se ferment et tout le monde évacue le stade au plus tard, se gérera de manière responsable.
Et on imagine que pour évacuer un cours central au moment d'un cinquième set décisif sur les coups de 20h15, ça peut être un peu compliqué. Un mot enfin sur les joueurs. Vous savez que l'an passé, ils devaient rester à l'hôtel. Cette fois, ils auront droit de sortir une heure par jour pour se dégourdir un peu les jambes.
C'est toujours mieux que rien. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Alors, en attendant, eh bien, les stades sont toujours vides. C'est dommage, surtout quand c'est un match à enjeu. C'est le cas ce soir entre Montpellier et le Paris Saint-Germain.
À demi-finale de Coupe de France et du football, bien sûr. Les Parisiens qui sont sur le point de laisser filer le titre de champion de France à Lille voudraient bien se rattraper, évidemment, avec la Coupe de France dont ils sont tenants du titre. Julien Froment, on peut dire que cette Coupe, c'est la dernière chance pour Paris de sauver sa saison.
Oui, effectivement, puisque vous l'avez dit, le spectre de la saison blanche guette le Paris Saint-Germain, très mal embarqué en Ligue 1, 3 points de retard sur Lille à 2 journées de la fin. Résultat, eh bien, cette Coupe de France reste l'un des moyens les plus simples de remporter un titre. Paris, recordman justement, avec 13 trophées à son palmarès. Et donc une valeur refuge, une bouffée d'air frais pour les hommes de Mauricio Pochettino. Le PSG pourra d'ailleurs compter sur son meilleur buteur, Kylian Mbappé. Fini les petits bobos au mollet, le Français est apte et donc attendu dans le 11 de départ. Paris qui n'a plus perdu dans cette Coupe de France dans le temps réglementaire depuis 2014, 7 ans. Mais à l'époque, le bourreau s'appelait justement Montpellier. Enfin, autre signe du destin ou non, Christophe, ce matin, le quart du PSG tombé en panne avant l'arrivée des joueurs par avion. Le club espère eh bien, ce soir que ces joueurs ne caleront pas au stade de la Mosson.
Bien joué, Julien Froment du service des sports d'Europe 1. On le leur souhaite. Montpellier-PSG ce soir à 21h. Demain, l'autre demi-finale opposera le club amateur de Rumilly-Vallières à Monaco.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. On vous retrouve demain 18h. La météo Anissa Dadi avec un jeudi, ma chère Anissa, de l'Ascension qui s'annonce perturbée sur quasiment toute la France.
Quasiment. Vous vous faites bien d'insister, Julien, parce que seul le pourtour méditerranéen aura la chance de passer ce jeudi de l'Ascension sous le soleil. Le vent souffle toujours fort du côté de la Corse avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Et partout ailleurs, c'est un temps humide en effet. En Normandie, les pluies seront soutenues. Partout ailleurs, des averses pour tout le monde. Ces averses fréquentes vont durer toute la journée. Dans l'après-midi, sur la moitié nord, ces averses vont même devenir orageuses. Les températures, elles sont stationnaires. 5 à 12 degrés demain matin, 13 à 22 dans l'après-midi, 13 pour Cherbourg, 15 degrés à Paris et Bordeaux et 22 la maximale pour Montpellier.
Merci Anissa. Rendez-vous demain
à
partir de 18h dans Europe Soir. Dans quelques secondes, restez avec nous. Le Club des Idées, grand entretien exceptionnel ce soir avec Jean-Luc Mélenchon. D'abord, la carte blanche offerte aujourd'hui, comme souvent le mercredi, à Nicolas Bouzou, l'économiste.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Oui, c'est l'économiste Nicolas Bouzou qui est avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous vous êtes intéressé, tiens, à la chirurgie esthétique, au Botox précisément, dont la consommation grimpe en flèche aux États-Unis.
Oui, mais j'ai vu ça dans la presse américaine. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis ces dernières semaines pour expliquer en effet que la consommation de Botox augmentait, qu'il y avait une demande très forte de chirurgie esthétique. On voit aussi que les salles de sport, là où la situation sanitaire est meilleure, mais se remplissent à nouveau et elles sont même plus remplies qu'avant la crise en réalité. C'est l'idée en fait de se faire beau pour l'après. Vous vous souvenez, après les deux derniers déconfinements en France, on avait vu des queues qui se formaient devant les magasins de vêtements. Donc il y avait aussi cette idée, au fond, de rattraper le retard perdu en matière de rencontres et de socialisation.
Et il paraît qu'il y a aussi l'effet FaceTime et Zoom. On s'est beaucoup vu, on s'est beaucoup regardé pendant ces confinements. Et du coup, voilà, on se trouvait un petit ride par-ci, une petite ride par-là. Ça semble avoir eu un effet aussi sur la consommation de Botox. Alors, est-ce que c'est bon pour l'économie tout ça, Nicolas ?
Oui, c'est vraiment très bon pour l'économie. Vous savez, on pourrait appeler ça le revenge socialization. On a beaucoup parlé en Asie notamment de revenge spending, c'est-à-dire cette idée selon laquelle il y avait un effet de rattrapage de la consommation. Revenge spending, c'est un vieux terme qu'emploient les spécialistes de l'Asie. On avait vu ça après la révolution culturelle, quand on avait commencé à libéraliser l'économie chinoise. Eh bien, les consommateurs chinois voulaient se venger en quelque sorte de la violence maoïste. Alors, ils voulaient se venger d'ailleurs avec un acte de consommation qui était plutôt pacifiste. Et il y avait une surconsommation en réalité. Donc, c'était vraiment cette idée que l'acte de consommation militant, mais pour rattraper quelque chose qui avait été perdu. C'est sans doute quelque chose que l'on va voir, cette surconsommation, ce retour à une consommation, mais encore plus forte qu'avant. D'autant plus que dans les pays développés, c'est le cas en France, il y a de l'épargne. L'OFCE, oui. L'Observatoire français des conjonctures économiques, évalue le montant de l'épargne qui a été constituée pendant la crise à 160 milliards d'euros. Donc ça fait un énorme plan de relance. Alors c'est de l'épargne qui a été accumulée par les gens qui ont des hauts revenus. Ce sont les 20% de foyers qui ont les revenus les plus importants, c'est-à-dire à partir de 60 000 euros par ménage. Mais eux, ils ont vraiment de l'argent à dépenser. Et je parlais de revenge socialization et pas simplement de spending, c'est-à-dire vraiment de retour des rencontres et du rattrapage du temps perdu en matière de socialisation et de rencontres. Parce que ce que l'on voit aussi dans les pays qui ont rouvert, c'est un boom de la fréquentation des événements. Vous avez évoqué dans le journal Roland-Garros. Oui. C'est peut-être ce que l'on va observer, je l'espère en tout cas, à Roland-Garros. C'est très important du point de vue économique ce sujet, parce que c'est au fond toute l'idée qu'il y a derrière l'idée de nouvelles années folles ou de nouvelles 30 glorieuses. Vous savez, après toutes les grandes crises, on observe cet effet de sur-rattrapage qui porte l'économie. On l'a observé dans l'histoire après les guerres, après les épidémies. Bon, moi, je fais le pari que c'est à nouveau ce qui va se passer, parce qu'on le sent bien tous. On sent bien qu'on a du temps à rattraper.
Et puis, il y a un effet calendaire, 2020-1920, les années folles du 21e siècle, c'est peut-être qui nous attend aussi.
Absolument. Mais je préfère les 30 glorieuses parce que les années folles débouchent sur la guerre, alors que les 30 glorieuses, elles sont vraiment glorieuses.
Merci beaucoup, merci Nicolas Bouzeau, pour cette carte blanche.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous, 19h17. On se retrouve dans quelques instants avec le grand entretien. Jean-Luc Mélenchon, à tout de suite. Et ce soir dans le Club des Idées, c'est un grand entretien exceptionnel que l'on vous propose avec celui qui dit incarner l'autre gauche. Il est déjà candidat déclaré à la présidentielle, député des Bouches-du-Rhône, chef de file de la France Insoumise. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous publiez aujourd'hui « Député du peuple humain ». C'est aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous y développez à travers plusieurs discours votre vision de la pensée écologique. Qu'est-ce que c'est que cette vision d'abord humaniste de la pensée écologique que vous défendez à France Insoumise ?
Alors déjà, c'était un moment spécial. On discutait de la loi issue de la fameuse convention citoyenne sur le climat. Vous savez qu'il y a toute une dispute parce que les gens ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils avaient proposé. Alors... on a pensé à ce moment-là que c'était l'occasion pour nous de développer une vision d'ensemble. J'ai parlé de nouvel humanisme à ce sujet parce que l'humanisme historique, celui qui est né au XVe siècle, il affirme un fait qui, à l'époque, était une révolution intellectuelle absolue. L'être humain est absolument responsable de son sort.
Oui.
Et il est un animal comme les autres et non pas une créature particulière. Bon, alors à l'époque, ça a provoqué le tumulte que vous imaginez, pas mal de bûchers sur lequel on finit les gens qui tenaient cette position. Mais on a reproché à cette position d'être trop centrée sur l'être humain au détriment des autres espèces et avec l'idée que l'être humain devait être maître et possesseur de la nature. On a réduit à cette seule formule qui n'est que d'une seule personne et je voudrais rétablir l'équilibre et dire non, l'humanisme fondamental, en expliquant que l'être humain participe de la biodiversité, nous rend responsable de la biodiversité. C'est en cela que c'est un nouvel humanisme, puisqu'il affirme que le but est l'harmonie des êtres humains avec la nature, et pour cela, entre eux. Et quand je dis harmonie, je ne suis pas en train de vous parler d'une image lyrique, vous savez, bon, on est bien avec dans la nature. Non, c'est accorder les cycles de l'activité humaine avec ceux de la nature. Et pour résumer, je termine, on ne prend pas plus à la nature qu'elle n'est capable de reconstituer dans un délai raisonnable et vérifié.
Et de ce point de vue-là, vous appelez aussi à un changement radical sur notre vision et notre rapport à la nature et à l'écologie. On en parlera tout à l'heure, car c'est un livre fort intéressant de ce point de vue-là. Alors, je suis content de vous recevoir, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on va avoir un peu de temps ce soir pour parler, et peut-être aussi pour clarifier certaines de vos positions. Car avec vous, c'est vrai qu'on n'est jamais déçu de vos bons mots. Alors, le dernier en date, c'est aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Monde. Les écologistes, dites-vous, ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre. Et il y a deux jours, vous les traitiez, ces mêmes écologistes, de fauchetons. Pourquoi un tel mépris, Jean-Luc Mélenchon, vis-à-vis de ceux qui pourraient être vos alliés ?
Alors, vous voyez, c'est là qu'on voit les limites de votre métier. C'est que vous n'avez pas pris la peine de vous demander pourquoi. Vous me le demandez à moi.
Mais donc, je vous demande une explication.
Attendez, je vous en veux pas. J'ai l'habitude, je connais le truc. Vous posez quelque chose, je méprise, je serais censé mépriser les écolos et je dois me justifier.
Les traiter de faucheton, c'est pas très sympa.
Voilà. Non. Alors, la vie, c'est pas d'être sympa ou pas, à mon avis. Hein. C'est de répondre à des faits. Que se passe-t-il ? Il y a 15 jours de cela, Yannick Jadot, parlant, on ne sait si c'est au nom des écologistes ou de lui-même, a provoqué une réunion de toute la gauche, blablabli, blablabla. Et nous, on leur a dit, écoutez, tout ça est très sympa, mais on vous propose deux choses. Premièrement, un pacte de respect mutuel, de non-agression, et deuxièmement, d'entrer tous en action pour la défense des libertés, dont nous estimons, nous, les insoumis, qu'elles sont mises en cause. D'accord ? Voilà des choses très simples, très claires. Là-dessus, nous reconnaissons la tête de liste écologiste dans les Hauts-de-France, c'est pas mal, hein ? On cède d'ailleurs partout. puisqu'ils n'acceptent qu'une seule variété de tête de liste eux-mêmes.
Oui.
On cède partout, et là-dessus, nous découvrons que, un, nous sommes exclus de tous les accords aux élections départementales dans les mêmes Hauts-de-France, et qu'en PACA, c'est la condition de départ. PACA, c'est oui. la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'accord. On apprend que la condition posée par les écologistes, c'est qu'il n'y ait pas d'insoumis dans la liste. Et après, ils se donnent le ridicule de se partager en deux listes, ce qui est totalement irresponsable.
Vous parlez des
Mais
élections.
C'est à moi qu'on vient demander pourquoi je les méprise.
Mais pardon de vous dire que, faustons.
Un comportement aussi irresponsable
oui.
Mériterait quand même au minimum. Mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Ce matin, Mme Martineau a fait mieux. Elle a dit Mélenchon a sorti la sulfateuse. Autrement dit, les faits ont cessé d'intéresser un certain journalisme. Ce qui les intéresse, c'est qu'il faut que ça buzz.
Alors,
faut que ça barde, faut que ça...
C'est pas mon intention, Jean-Luc Mélenchon.
J'ai bien compris, c'est pour ça que j'ai accepté de venir.
C'est pas mon intention, mais c'est vrai qu'on a l'impression, à chaque fois, que personne ne trouve grâce à vos yeux, à part vous, voilà. dans le cadre de l'élection présidentielle. Parce que on semble que vous n'y croyez pas à cette union de la gauche qui avait si bien réussi à François Mitterrand, que vous avez adulé en son temps en 1981.
Non, j'ai jamais adulé personne.
Vous l'avez aimé, François Mitterrand.
Oui, aimé, oui, mais vous faites la différence entre adulé et aimé, ou ça non plus... La nuance vous échappe.
Pourquoi vous ne croyez pas à cette union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon ?
Eh bien, parce que, d'abord, comprenons-nous bien, vous employez des mots qui sont extrêmement durs et blessants. Vous dites, vous ne croyez à personne à part à vous-même. Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Vous dites des choses qui sont totalement fausses. Je crois à un programme. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ?
On va en parler du programme.
Mais, quand on croit à un programme, on défend ce programme parce qu'on pense qu'il est bon pour son pays. Parce qu'on pense qu'il est bon pour le peuple français.
Oui.
Voilà, moi je ne reprocherai à personne de croire à son programme. Mais moi si, on me le reproche. Comment tu crois à ton programme au point de ne pas accepter instantanément de t'effacer devant Pierre-Paul ou Jacques, etc. C'est-à-dire la seule personne qui ne serait pas en état, si j'en crois ce qu'on dit, de défendre ses idées, ce serait moi. Alors, après, permettez-moi une nouvelle fois, mais je ne vais pas employer oui. le mot, parce que sinon il y aura des rebondissements. Disons, de pointer du doigt... la double vérité que professent un certain nombre de mes concurrents, qui eux non plus n'ont pas l'intention de renoncer à leur candidature. Mais la différence entre eux et moi, c'est qu'ils n'ont pas de programme et qu'ils disent qu'ils vont en avoir un. Et par conséquent, je confronte tout le monde à cette réalité. Est-ce que vous croyez, monsieur, que je peux aller à l'élection présidentielle et dire « je m'en fiche de savoir si on change ou non » les institutions et si on laisse le monarque présidentiel oui. ou pas. Ça m'est complètement égal de savoir si on sortira des traités européens. Je me fiche de savoir...
Jean-Luc Mélenchon, alors, donc il y aura autant de candidats à l'élection présidentielle qu'il y a aujourd'hui de partis de gauche. Ce sera ça le résultat.
Écoutez...
Non mais je vous pose la question.
Non, vous ne posez pas la question.
Vous posez
une thèse, déjà, qui est une thèse qui ne repose sur rien. Tout à l'heure, vous avez dit François Mitterrand que vous avez adulé. Je suis obligé de vous reprendre et vous dire non, je l'aimais comme individu. Et je le soutenais politiquement. Je ne suis pas dans l'adulation. Voilà. Maintenant, je vous dis, François Mitterrand a été candidat en 1980, vous vous en souvenez, et il a gagné.
Oui.
Puis-je mentionner juste un détail pour vous aider à bien comprendre l'importance d'un programme dans la vie politique ? C'est qu'à cette élection-là, il y avait aussi un candidat communiste, Georges Marchais, qui a fait presque 16%.
Alors,
il y avait un candidat PSU.
Oui.
Il y avait Bref, il y avait déjà plusieurs candidatures. Écoutez-moi bien. On ne gagne pas une élection présidentielle par une martingale de combines et de logos. On la gagne parce qu'on a convaincu une majorité de Français. Et si on l'a perdue, c'est parce qu'on n'a pas convaincu une
Donc
majorité
vous pensez
de
que vous, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes le plus à même à gagner cette élection parmi tous les partis de gauche, pour en terminer par cette union ?
D'abord, je vis assez mal que vous m'assimiliez ou que vous assimiliez les autres à des partis de gauche. Pardon
mais
de vous dire
Jean-Luc
que...
Jean-Luc Mélenchon, pardon, mais je vous pose la question, mais parce que c'est un vrai sujet. Quand on regarde les intentions de sondage, le dernier Odoxa par exemple, les électeurs de gauche souhaitent à 81% qu'il y ait un candidat commun.
Ah ben
c'est le
aussi.
Sens de l'histoire.
Ah ben moi aussi, je souhaite être le candidat commun s'ils le veulent. Mais,
sera vous ou personne d'autre.
Mais je ne, leur ferai pas le... je ne leur ferai pas l'injure de leur dire... Je pourrais être votre candidat et renoncer à la Constituante et au changement passage à la 6e République.
Oui.
Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que je vais accepter l'Europe telle qu'elle est.
Mais si Yannick Jadot reprend vos propositions, vous pouvez vous ranger derrière lui. On peut imaginer ça, par exemple.
Mais vous imaginez ce que vous voulez, ça ne présente aucun intérêt.
Bien.
Pardon, est-ce que vous avez l'impression que M. Jadot va vous expliquer demain qu'il renonce à l'alliance militaire en Europe avec l'OTAN ? Est-ce qu'il va accepter la Constituante ? Est-ce qu'il va accepter la planification écologique dont il dit que c'est un système soviétique. Donc non, et je ne lui en veux pas, ce n'est pas son idée.
Alors,
donc qu'est-ce que vous voudriez ? Qu'on se mette d'accord ?
Ah, mais je ne sais pas, comme moi je vous pose des questions.
Mais non, vous ne posez pas
de
des
gagner,
questions.
Donc faut être
vous induisez, attendez, mais laissez-moi le plaisir de la conversation
je
avec vous.
Je vous en prie.
Bon, il faut comprendre comment les idées s'enchaînent. Là, vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à un certain nombre ? Tous les jours de répéter, si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas gagner. Eh bien moi, je vous dis que si nous sommes unis sur la base du programme du moins 10 ans,
oui,
c'est-à-dire on cache tout, nous perdrons pire qu'on ne perdrait dans n'importe quelle autre configuration.
Alors,
pourquoi ? Parce que les Français, on en a marre d'être bernés. L'autre, il aura fait le coup,
on
la finance est mon ennemi, et il a terminé avec la loi El Khomri. Mais vous croyez que les gens
ont
oublié ?
François Hollande.
Peut-être vous, mais pas eux.
Ça, c'est François Hollande. On va
oui,
parler
merci,
justement du débat d'idées
oui,
avec ce programme que vous éditez dans les cahiers de l'avenir en commun, que j'ai feuilleté tout à l'heure. On en parle dans quelques secondes, juste après la pause. À tout de suite. Et on poursuit le Club des idées avec le grand entretien exceptionnel que l'on vous propose, celui qui dit incarner l'autre gauche, député des Bouches-du-Rhône, chef de file de la France Insoumise, c'est donc Jean-Luc Mélenchon qui nous accompagne ce soir jusqu'à 20h. On va parler de vos idées et de votre programme, Jean-Luc Mélenchon, pour cette présidentielle de 2022.
Et pourquoi dites-vous que je dis incarner l'autre gauche, je ne parle pas comme ça, moi. Je n'incarne pas l'autre gauche, j'incarne le programme,
ni les socialistes, ni l'écologie, ni les communistes.
Ah,
vous
d'accord.
Êtes une autre
d'accord,
gauche, non ?
Non,
okay.
Vous
n'êtes
non,
pas
mais
une autre gauche,
vous m'attribuez le terme, parce que moi, je suis en recherche
vous
d'un terme.
Vous permettez d'avoir des expressions
non,
qui
non,
sont
bon,
propres.
Non, mais bon, laissons tomber, ok, je laisse tomber, mais je voulais dire que ce n'est pas moi, quoi.
Alors, vous parlez aussi de l'écologie dans ce livre qu'on évoquait tout à l'heure, député du peuple humain.
Oui.
L'écologie, c'est un sujet de préoccupation des Français, mais il y a aussi, ça ne vous a pas échappé, Jean-Luc Mélenchon, la sécurité, qui revient très fort. Alors, sur ce point, il y a, dit certains, vous allez dire que ce certains, ce sont les observateurs dont je fais partie, mais passons comme un grand malentendu entre vous et la police. Vous avez déclaré, la République ne se négocie pas dans les casernes et dans les commissariats, et vous y avez dénoncé des syndicats de police factieux et d'extrême droite. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez ?
Oui, bien sûr. Et je leur dis très clairement que je ne suis pas d'accord avec leur façon de poser les problèmes. Ce qui est en cause aujourd'hui, partout, c'est les conditions d'exercice du métier de policier.
Vous pensez que les syndicats de police sont d'extrême droite ?
Vous avez peut-être lu leurs déclarations.
Non, mais moi, je pose des questions, Jean-Luc Mélenchon,
ah bon,
vous avez vos réponses.
Non, mais vous me posez deux fois la même question,
oui,
donc je vous réponds
non,
deux fois oui, de la même
ça,
manière.
Ça n'est pas rien de dire ça.
Oui,
ils
mais
sont très,
vous,
très représentés.
C'est quand même
plus,
incroyable, ça me fait marrer au fond. Vous avez un syndicat de police qui dit qu'il veut établir des checkpoints autour des cités et faire des contrôles des personnes pour les empêcher de sortir, et c'est à moi que vous demandez si c'est un syndicat d'extrême droite.
Bien, mais il y a plusieurs syndicats au sein de la police. Il y a plusieurs syndicats au
oui,
sein de la police.
Oui, et les autres, vous croyez qu'ils valent plus cher quand ils me menacent, quand ils m'accusent, quand ils nous mettent des cibles dans le dos? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'un syndicat de police menace des juges? Vous trouvez normal qu'un syndicat de police mette le siège devant un parti politique ou devant une télévision? Vous trouvez tout ça normal?
Non, mais je vous pose oui, la non, question
mais on
parce
a une
que
autre
vous
époque, hein,
je vous pose
j'ai
la question parce
ben
que
moi je trouve pas ça normal
parce que
et je pense que
le taux
les policiers
de participation aux élections professionnelles de la police, c'est 83%. Donc à travers les syndicats de policiers, sont les policiers directement que vous attaquez, Jean-Luc Mélenchon?
Je ne crois pas que les choses se présentent comme ça. On ne va pas avoir un débat sur la police, ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Je le résume. Je pense que la question qui est posée, c'est celle des conditions dans lesquelles s'exerce le métier de policier.
Oui.
Je pense que c'est une erreur débarquer dans des endroits qui sont difficiles, sans aucun renseignement pris à l'avance, parce qu'on va au-devant de grands embêtements, et c'est ce qui s'est produit, ça peut aller jusqu'au meurtre. Je pense que c'est une erreur quand quelqu'un, une femme, vient se plaindre et dire qu'elle est menacée par quelqu'un qui est en prison et qui vient d'en sortir, de ne tenir aucun compte de sa plainte. Examiner les conditions dans lesquelles s'exerce le métier de policier est une nécessité.
Oui.
Si l'on veut à la fois empêcher que les policiers soient victimes d'agressions, mais également, car c'est la mission principale, que la population soit correctement protégée. J'en ai assez de cette escalade permanente, cette surenchère permanente, où au premier incident, tout le monde grimpe au rideau et on ne peut plus parler de rien tranquillement et sereinement. Les questions de police, comme les questions militaires, c'est curieux, vous ne m'en parlez pas, mais je vais quand même vous en parler. Les militaires sont à 90% ou à peut-être même 100% d'actifs, pas d'accord
oui,
avec les prises de position politiques
oui,
d'une poignée d'énergumènes qui
on
sont
sait,
encouragés.
On ne sait pas combien ils sont d'ailleurs, puisqu'ils sont anonymes.
Voilà, en plus d'être des factieux, ce sont des lâches. Mais si vous ne vous rendez pas compte que l'intérêt de la République et que l'usage de ces forces qui sont
oui,
investies de l'autorité soit bien encadré pour que tout le monde se sente à l'aise dans l'exercice, du métier, mais que les droits et libertés soient respectés.
Alors, enfin, moi, je ne crois rien, mais je relais des propos de personnalités politiques, comme Bernard Cazeneuve, par exemple, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui dit ceci à propos de vous.
Quand je vois des responsables publics théoriser en permanence la consubstantialité de la violence à la police, expliquer dans des manifestations organisées par des groupes qui promeuvent en permanence le communautarisme, que les institutions de l'État qui incarnent l'autorité dont on parle sont destinées à les humilier, à les discriminer, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une forme de violence qui se répande dans la société.
Ça pose d'ailleurs la question de votre rapport aussi à la laïcité. Est-ce que vous acceptez qu'on en dise un mot? Parce que c'est vrai que certains de vos propos ont jeté le trouble. Par exemple, sur l'islamophobie, alors qu'il n'y a pas si longtemps, en 2015, vous disiez « je réfute le terme d'islamophobie ». On a le droit de critiquer l'islam. Et c'est sain dans notre démocratie.
Alors, vous m'interrogez sur quelle saloperie? D'abord, celle de Cazeneuve ou la vôtre?
Je vous pose des questions,
mettez de l'ordre dans vos questions. Non, mais c'est pas sérieux. Vous êtes en train de faire... Vous donnez la parole à M. Bernard Cazeneuve. Oui. Vous êtes journaliste,
oui.
Pas copiste.
Non.
Bon, Monsieur Cazeneuve vient de déclarer une série de choses qui sont fausses. Vous ne relevez même pas. On passe à la suivante. Allez, hop.
Mais alors, rétablissez votre vérité.
Non, je n'ai pas l'intention de polémiquer avec M. Cazeneuve qui dit ce qu'il veut et qui est relayé par vous. Donc, M. Cazeneuve doit avoir raison, puisque vous lui donnez raison.
Au même titre que nous relayons parfois des propos que vous tenez, puisque vous êtes un responsable politique de premier plan et que vous êtes candidat à l'élection présidentielle.
Passons à quelque chose d'intéressant, s'il vous plaît.
Sur la laïcité, quel est votre rapport à la laïcité, Jean-Luc Mélenchon? Je voudrais vous interroger, par exemple...
Mais
je suis journaliste, je ne suis pas responsable politique, Jean-Luc Mélenchon.
Mais vous posez une question absurde. Quel est mon rapport à la laïcité? Vous débarquez, vous sortez de l'œuvre. Ça fait 30 ans que j'écris des choses sur la laïcité. Alors, quelle est ma conception de la laïcité?
Je vais l'expliquer.
Parce que la laïcité est née dans l'histoire après un long processus qui commence au XIVe siècle, avec les premiers éléments où les monarchies sont opposées au pouvoir des papes. Puis, c'est la Grande Révolution de 1789 et ensuite la Commune de Paris qui a décidé la séparation des églises et de l'État. La laïcité consiste à séparer les églises de l'État et à ne pas permettre que l'État non plus se mêle de religion. Il faut donc tenir ce point d'équilibre qui permet au peuple français de vivre ensemble. Nous autres, les gens qui sommes liés à la tradition syndicale et à la tradition de l'universalisme, nous sommes très attentifs à séparer la religion de la politique de manière à ce que le peuple puisse s'unir et non pas se diviser sur des questions religieuses qui rendent ensuite la vie impossible. Voilà pourquoi il faut à la fois empêcher les religieux d'intervenir dans le champ politique, mais il faut aussi empêcher la politique de se mêler de religion, comme c'est le cas aujourd'hui, où on voit un membre du gouvernement décider ce que doivent prêcher, là en l'occurrence il s'agissait des imams, elle n'avait pas eu l'idée de le poser aux rabbins ni aux prêtres, quand Mme Schiappa dit « les imams doivent recommander la liberté des mariages homosexuels », alors qu'elle sait parfaitement qu'aucune religion n'accepte cette idée, et les religions ont le droit de ne pas l'accepter, comme nous avons le droit, nous, d'accepter le contraire.
Oui.
La loi doit permettre à chacun de vivre librement. Voilà ce qu'elle doit faire, mais non pas de donner des injonctions religieuses, parce que ce n'est pas son domaine.
Si
voilà ma conception de la laïcité.
Eh bien, c'est une bonne réponse. Voyez que la question méritait d'être posée, Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais vous faire réagir à un point précis, c'est cette polémique d'une suppléante dans l'Hérault qui apparaît voilée sur un tract. Ma question, elle est simple, parce que c'est vrai que la question du voile hystérise aujourd'hui la société française. Peut-on faire de la politique dans un parti laïque et républicain et être voilé? Voilà ma question.
Alors, je crois que votre question est très mal posée, comme d'ailleurs tout le raisonnement qui va avec.
Eh bien, décidément... Je vous remercie d'être venu.
J'ai le droit, non? Mais vous avez le droit de me mettre en cause extrêmement gravement, de poser des questions qui, les unes et les autres, sont tous des insinuations, de faire parler quelqu'un qui m'insulte.
Oui.
Et moi, je ne peux pas mettre en cause
mais
vos questions.
Mais on peut le faire avec élégance.
Voilà. Eh bien, je ne suis pas élégant. Je suis un sauvage, vous le savez bien. Ça a déjà été dit de nombreuses fois. Alors, regardons un peu précisément. La question du voile appartient à la liberté individuelle. C'est-à-dire, les gens pratiquent la religion comme ils le veulent et il n'y a pas de police du vêtement dans ce pays. Je veux dire qu'on peut se mettre une kippa sur la tête, on peut porter une croix. Après, être candidat à une élection, c'est une autre paire de manches. C'est un peu comme quand on est syndicaliste. Quand on est candidat à une élection, ça veut dire qu'on prétend être à un moment donné le représentant du peuple tout entier. Bien sûr, vous êtes élu sur une ligne politique, mais ensuite, vous incarnez, vous devez prendre en charge l'intérêt général. Dans cette circonstance, pour ma part, je trouve que ce n'est pas le bon comportement que d'afficher une option religieuse ostentatoire qui revient à dire Bon, ben, en gros, vous approuvez ma religion. Non, il ne faut pas demander aux électeurs. Alors, il faut le faire avec respect. Parce qu'on a tellement diabolisé les musulmans dans ce pays que dorénavant, tout le monde est à cran sur le sujet. Et maintenant, voici que LREM est tombée dans le piège qu'elle a elle-même ouverte. Parce que en France, de nombreuses personnes portent des kippas, de nombreuses personnes portent le voile, et ce n'est pas à nous de décider si elles ont le droit ou pas de le faire. Dans une élection, encore une fois, ou pour représenter les autres, je pense que c'est une erreur. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je demande toujours à mes amis qui sont croyants, il y en a, hein, eh bien, de ne pas faire état de leur appartenance religieuse quand ils sont candidats. Voilà.
Sur la place du religieux, justement, Jean-Luc Mélenchon, dans l'espace public, qui revient au centre, on pense à l'islam, mais pas uniquement, qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que ça vous inquiète, vous ?
Le retour du religieux dans le politique est la volonté délibérée de certaines organisations religieuses qui ont décidé de prendre pied dans la politique. Voilà. Donc ça doit être combattu. Personnellement, je n'ai jamais cédé à la moindre concession par rapport à cette idée, tout le monde le sait, ce n'est pas d'aujourd'hui. Parce que avant que vous ayez à vous en plaindre sur le territoire de la France, les premières victimes de ça, ce sont des pays musulmans, où les musulmans eux-mêmes ont payé cher l'intervention des islamistes dans la vie politique. C'est la raison qui fait que j'étais, moi, du côté des deux victimes des islamistes qui ont été Mohamed Brahmi et Choukri Belaïd en Tunisie, ou que j'ai été du côté des forces laïques en Algérie, et que je le suis d'une manière générale, hostile à l'intervention des islamistes dans la politique. Je ne confonds pas, et c'est ça mon combat, oui. Je ne veux pas qu'on confonde ces militants politiques avec la masse des musulmans français qui se comportent comme des Français ordinaires, voyez-vous, certains ont la foi, d'autres ne l'ont pas, ceux qui l'ont la pratique, et en général, avec bon, une certaine délicatesse, une certaine élégance que moi je leur reconnais.
Bien. Vos propositions, Jean-Luc Mélenchon, que vous rassemblez donc dans ce fascicule, je l'évoquais, intitulé « Les cahiers de l'avenir en commun ». Alors, il y a plein de choses là-dedans qui sont rassemblées en quelques pages. Un emploi pour tous, réduire le temps de travail, le retour à la retraite à 60 ans, rééquilibrer aussi la fiscalité, moins d'impôts pour les classes moyennes, un peu plus pour les autres. Ça fait penser, pardon encore de cette référence à François Mitterrand, mais au programme Changer la vie de 72.
Et alors ?
Est-ce que ça vous a inspiré ?
Je suis inspiré par une longue histoire. Vous savez, je vais vous dire, ce programme-là, réduire le temps de travail, augmenter les revenus des gens qui travaillent, augmenter le temps libre, c'est le programme séculaire de ma famille politique. On me voit porter un triangle rouge, c'est le triangle rouge que portait pour le 1er mai, le premier mai de notre histoire, les ouvriers français, c'était un triangle en cuir, ça voulait dire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Pourquoi ? Parce que dans la création de richesses, il faut comprendre que le capitalisme fonctionne sur une logique assez simple. Il paye évidemment un salaire, il paye des équipements, et puis, mais pour le reste, il s'approprie du travail gratuit. C'est-à-dire, rien de tout ça ne représente le total de ce qui est produit. La richesse est bien plus grande. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir comment cette richesse supplémentaire est répartie entre les différents protagonistes.
Mais
la répartir en temps libre, oui. On peut la répartir en salaire, et puis ensuite, une fois qu'on a réparti, il faut aussi que chacun contribue à hauteur de ses moyens. Voyez-vous, quand vous apprenez que cette année, vous avez des milliers de petites entreprises qui vont faire une année blanche, dans le meilleur des cas, ils vont avoir un prêt garanti par l'État qu'ils vont devoir rembourser. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir le faire. Mais cette année, pour prendre que cet exemple, les entreprises du CAC 40 vont distribuer 51 milliards de dividendes, oui. C'est-à-dire l'équivalent d'un million d'emplois. Si on disait c'est une année blanche pour vous, eh bien, cela veut dire qu'on arriverait à financer ce qui manque pour la collectivité à ce moment-là. Il faut bien que tout le monde contribue.
C'est un moment colossal, mais j'ai plein de questions à vous poser sur la réduction du temps de travail pour partager les emplois. Mais sur ce point, les dividendes, c'est une somme colossale, plus de 50 milliards d'euros. Mais ça profite aussi à plein de gens qui ne sont pas des très riches, qui ne sont pas des personnes aisées, qui ont mis un peu d'argent en bourse pour compléter leur pension de retraite, par exemple.
Je crois que vous avez une vision assez spéciale de la société. Non, ce n'est pas la situation aujourd'hui. Les actionnaires du CAC 40 ne sont pas des petits porteurs qui ont mis quelques sous. C'est pas de ça dont on parle. On parle de fonds qui investissent des sommes considérables. La répartition se fait d'une manière qui est extrêmement concentrée.
Oui.
Et pardon de vous dire que C'est pas sérieux, quoi.
Il n'y a pas de petits porteurs. Dans les actionnaires du CAC 40, il n'y a pas de petits porteurs, il n'y a pas de petits retraités, il n'y a pas de petits actifs.
Bien sûr qu'il devait y en avoir, monsieur. Je sors mon mouchoir pour pleurer avec vous.
Non, mais je vous pose la question, Jean-Luc Mélenchon.
J'ai compris que vous me posiez une question innocente et bienveillante qui permet d'éclairer le débat et de faire comprendre ce qu'est le fonctionnement d'une économie.
Sur la réduction du temps de travail, de quelle manière et quel est le bon volume de temps de travail par semaine
dans
votre esprit ?
Alors, d'abord, commençons. Ne prenons pas les choses par le petit bout de la lorgnette. Commençons par les voir dans le contexte dans lequel on est. En un mot, on parle souvent de changement climatique. Ce qui est peu perçu, c'est qu'il est commencé, qu'il est irréversible et que nous entrons dans une ère d'incertitude permanente. C'est-à-dire, des événements vont surgir auxquels nous ne sommes pas habitués. Il faudra donc y répondre par une mobilisation de moyens humains et de moyens financiers. C'est donc à cette mobilisation-là qu'il faut faire face. Il y a dans ce pays des millions d'heures de travail nécessaires, mais qui ne sont pas financées aujourd'hui et qu'il va bien falloir financer.
Sur quel type d'emploi, par exemple ?
Pardon ?
Sur quel type d'emploi, par exemple ?
De toutes sortes. Depuis, je vais vous prendre les choses les plus banales, encore que tout est métier et tout est technique. Les canalisations d'eau de notre pays, qui sont un aspect vital, doivent perdre aujourd'hui 1 litre sur 5, et à certains endroits, la moitié. Refaire tout ça à la cadence actuelle, il y en a pour 150 ans. Ça veut dire qu'il faut s'y mettre dès maintenant et le faire en masse. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. Par exemple, nous avons besoin de milliers d'infirmiers et d'infirmières.
Pour aller au bout de la logique, on formerait des réparateurs d'eau, c'est ça ?
Non, je vais vous expliquer, puisque vous me posez la question. Dans ce pays, ça s'appelle des qualifications professionnelles. Donc vous avez un référentiel avec des qualifications qui sont mises là. Et les gens doivent savoir, en général en France, on ne fait pas une seule chose. On a une qualification qui est ample sur tout un ensemble d'activités. Par conséquent, installer des canalisations d'eau, puisque vous me posez la question, commence d'abord par les produire, ceux qui sont des métiers hautement spécialisés. Il y a une usine en France qui est à Pont-à-Mousson, qui appartient à Saint-Gobain et qui produit les meilleurs tuyaux du monde, je le signale au passage, quoique je ne sois pas le propagandiste de cette entreprise. Ensuite, il faut donc les produire, avoir les machines pour le produire.
Qui verse de gros dividendes à ses actionnaires.
Pardon ?
Qui verse de gros dividendes à ses actionnaires, Saint-Gobain.
Oui, sans doute,
non,
mais
pardon,
c'est bien.
Un trait d'esprit.
Et qu'est-ce que ça ajoute au tuyau, ça, les dividendes ?
C'est un trait d'humour, Jean-Luc Mélenchon.
Ah, c'est de l'humour,
un peu de sourire, parfois ça fait du bien.
Ça vous fait sourire quand l'argent est donné à des actionnaires ?
Jean-Luc Mélenchon,
non, mais pardon,
pardon,
j'essaye de comprendre l'humour, ça ne me fait pas rire, mais vous, oui. Bon, non, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc j'ai pris cet exemple, mais je dois prendre l'exemple ensuite du personnel soignant. Je pourrais citer des dizaines de métiers, mais là, nous savons tous que nous avons eu affaire à une pandémie et que nous n'étions pas à la hauteur. Donc il nous faut plus de soignants, il faut donc les former d'urgence à partir de maintenant. Et si vous voulez les former, il y a des tas de métiers dans lesquels vous devrez payer les gens pendant leur formation.
Oui.
Ce qui veut dire qu'ils seront considérés comme sous contrat, comme ayant un revenu, donc payant des impôts. Et ça, c'est le fameux tapis roulant qui fait que vous mettez en route une machine qui, en distribuant du salaire, permet ensuite de récupérer des cotisations sociales et de l'impôt et de la consommation. Savez-vous que la consommation...
C'est ce qu'avait proposé Jacques Attali à son époque, une formation continue tout au long de la vie qui permet de former, moyennant une rémunération pendant le temps de la formation.
Non, ce n'est pas ce qu'il proposait. Je le sais parce que j'ai été ministre de l'enseignement professionnel et que cette idée n'a jamais été reprise par les gouvernements et j'en suis désolé. Bien. C'est que je pense que les gens qui sont aujourd'hui dans les filières de formation professionnelle, c'est-à-dire lycée professionnel jusqu'au niveau bac pro ou ensuite BTS ou ensuite licence professionnelle, qui sont indispensables pour avoir un pays développé, ces gens-là sont souvent adultes et des fois en charge de famille et il faudrait donc qu'ils puissent y faire face avec une rémunération, alors ça porte un nom différent pour pas que ce soit assimilé au code du travail, vous voyez, ce sont des détails qu'il faut connaître pour pouvoir en parler. Donc, j'ai parlé à l'instant des personnels de santé, parce que vous savez comme moi qu'il y aura d'autres pandémies, puisque aucune des conditions initiales de la pandémie n'est annulée. Il y a un instant, dans une de vos questions,
vous
me disiez, il y a des
problèmes
écologiques et il y a des problèmes sociaux. Non, c'est les mêmes. Il y a des problèmes écologiques parce qu'il y a un certain traitement de la nature et des êtres humains par la forme actuelle d'organisation de l'économie.
Pardon, mais vous n'avez pas répondu sur le temps de travail. Quelle est semaine idéale
propose...
dans le programme
c'est pas,
de
c'est
la
C'est pas
France
facile
insoumise.
De faire des coups d'accordéon avec le temps de travail, parce qu'il y a toute une organisation de la société.
Mais c'est quoi? C'est 30 heures, 32 heures, 35
Alors,
heures
nous sommes... D'abord, il faut rétablir les 35 heures, parce que nominalement, elles n'ont jamais été abrogées. Mais quand vous mettez la 36e heure de travail, que vous la faites descendre à une majoration de seulement 10%, c'est oui. comme si elle ne coûtait rien. Or, l'idée, c'est quand même de rendre plus cher l'heure supplémentaire pour pousser à l'embauche, ce qui n'est pas possible dans toutes les tailles d'entreprise. Il faut donc appliquer ça avec discernement sur la manière de le mettre en route. 35 heures à rétablir, c'est la première étape. Et puis, il faut aller partout où on peut à de l'expérimentation sur les 32 heures. Pourquoi ? Parce que certains pays en Europe les ont appliquées sans que ça fasse effondrer leur économie. Oui. Donc maintenant, regardons bien les choses en face. Depuis le début du XXe siècle, la quantité de travail nécessaire pour produire un nombre de richesses 10 fois ou 20 fois ou 30 fois supérieur a été divisé par 2. Alors je sais bien qu'il ne s'agit pas de continuer à produire tout et n'importe quoi.
Une question précise, Jean-Luc Mélenchon, sur toutes ces mesures. Je crois que vous aviez chiffré en 2017 votre programme à 273 milliards d'euros, pour être précis. À combien vous le chiffrez pour l'élection de 2022?
Je ne le sais pas à cet instant pour la raison suivante. Là, nous sommes dans la phase où on distribue, on vend cette brochure, on discute et on doit arbitrer. Oui. Il y a plusieurs scénarios qui sont contenus dans la brochure. Et ce à quoi je fais confiance, d'abord chiffrer, ça ne sera rien à faire et ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Mais rappelez-vous la dernière fois, puisque vous avez l'amabilité de rappeler 2017 et que c'est très important, quand je disais nous allons investir 100 milliards d'euros, et à l'époque je disais c'est 100 milliards d'euros, pour compenser ce qui n'a pas été investi sous le régime de M. Hollande. On avait dit, vous allez ruiner l'économie. Maintenant, nous sommes à un multiple de cette somme oui. et personne n'y trouve à redire. Donc, ça montre qu'on peut mobiliser des fonds qui permettent de lancer ce que j'appelais tout à l'heure le tapis roulant de l'emploi, de la rémunération et donc du retour au plein emploi. Parce que j'y reviens, il faut revenir au plein emploi au sens où chacun peut participer à l'effort collectif par son travail. Évidemment, il y a besoin de moins d'heures de travail par personne quand on pratique le plein emploi. Et c'est à ça que je veux arriver.
Merci Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez qu'on a le temps de parler du débat d'idées, du fond aussi, malgré un début d'interview un peu rugueux. Ma dernière question, parce que le temps file évidemment, si vous étiez président de la République en mai prochain, en 2022, quelle est la première mesure que vous prendriez ?
Je ne peux pas vous répondre, parce que la première mesure, il y a tant de choses à faire. La première mesure à faire, c'est de je ne sais pas ce que ça peut bien vouloir dire, la première mesure, le premier jour, le deuxième, mais la première chose à faire, c'est de courir à l'aide de ceux qui sont dans la détresse et la misère. Je pense à ceux qui sont dans la rue, je pense à ceux qui ont faim, je pense à ceux qui ne sont plus logés. C'est l'urgence absolue. On ne peut pas laisser continuer dans un pays comme le nôtre une telle misère, oui. parce qu'elle va nous détruire tous.
Bien, merci infiniment Jean-Luc Mélenchon. Vous avez encore quelques secondes pour rester avec nous ?
Oui, pourquoi pas.
Parce que c'est le moment de nos archives. Tous les soirs à cette heure-ci, nous avons une pastille qui s'appelle Le Jour Où. 3 minutes pour comprendre quand le passé éclaire le présent.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Alors, c'est un hasard, Jean-Luc Mélenchon, si nous parlons ce soir de Margaret Thatcher, mais c'était le 4 mai 1979, c'est pour ça que je voulais votre réaction à l'issue de cette rubrique. Il y a 42 ans, Johanna Chabas, bonsoir.
Bonsoir.
Une femme est, pour la première fois dans l'histoire moderne, la dirigeante d'un pays européen. Margaret Thatcher devient Premier ministre du Royaume-Uni.
Oui, le 4 mai 1979, Margaret Thatcher marque l'histoire dans un tailleur bleu électrique avec une coiffure toujours impeccable qui ne bouge pas d'un millimètre. Elle fait son premier discours en tant que Premier ministre sans jamais parler du fait qu'elle est une femme. À l'époque, elle ne veut pas mettre ça en avant. Au contraire, elle souhaite être traitée comme n'importe quel autre Premier ministre.
C'est bien sûr le plus grand honneur qu'il peut arriver à un citoyen dans une démocratie. Maintenant que l'élection est finie, rassemblons-nous et battons-nous pour servir et renforcer ce pays qui nous rend si fiers.
Alors Johanna, ce destin de Premier ministre, ce n'était pas gagné pour Margaret Thatcher.
Non, du tout. Au début de sa carrière, elle est jugée trop stricte, pas assez à l'aise en public. Ses discours, qui manquent cruellement d'humour, ne passent pas. Sa voix aussi est considérée comme très désagréable. Chose étonnante à l'époque, elle prend donc des cours de diction par l'intermédiaire de l'immense acteur Laurence Olivier, rien que ça. Et Margaret Thatcher mène une campagne très moderne, comme l'analyse Jean-Pierre Joulin pour Europe 1.
Une campagne à l'américaine orchestrée par la meilleure firme de relations publiques britanniques, un budget de près de 3 milliards de centimes, des cours de diction et de maintien, tel est en partie le secret de la victoire ce matin de Mme Thatcher.
Paradoxalement, la conservatrice Margaret Thatcher, la dame de fer aux idées extrêmement libérales, est vue comme un renouveau dans ce pays en pleine crise économique, politique et sociale depuis plus d'un an.
Mais elle ne gagne qu'une majorité de 40 sièges. À l'époque, tous les commentateurs de la vie politique britannique pensent même que Margaret Thatcher va vouloir être plus prudente.
Le succès des conservateurs et non leur triomphe devrait inciter Mme Thatcher à préférer une évolution lente de la politique du pays plutôt que les transformations radicales qu'elle avait laissé entrevoir.
Eh bien, c'est loupé, Margaret Thatcher n'a écouté qu'elle-même et elle suivit son programme à la lettre, avec une libéralisation de l'économie, moins de dépenses publiques, des privatisations, des conflits ouverts avec les syndicats. Moins d'un an après son élection, Margaret Thatcher connaît déjà des émeutes dans tout le pays.
Rarement un Premier ministre britannique aura connu autant d'ennuis, voire d'insultes, en si peu de temps. Alors qu'elle se débatte avec une grève de la fonction publique et un arrêt de travail prochain de tous les employés du gaz, sa cote de popularité est au plus bas. Elle fait néanmoins préparer un projet de loi déjà fort contesté qui punirait d'amendes sévères les parents dont les enfants seraient responsables de violences sur la voie publique.
Des manifestations qui continueront d'ailleurs pendant toute sa carrière, mais qui ne l'empêcheront pas de rester 11 ans au pouvoir.
Oui, 11 ans, soit 3 mandats de Premier ministre, un record dans l'histoire moderne du Royaume-Uni. C'est une période de transformation pour le pays. Londres devient une place financière majeure, le PIB remonte. Mais Thatcher, c'est aussi un chômage qui explose. Des syndicats qui perdent leur pouvoir, c'est 22% de la population sous le seuil de pauvreté, 9 points de plus qu'à son arrivée à la tête du pays. Margaret Thatcher a en fait divisé le Royaume-Uni jusqu'à sa mort, où certains l'ont pleuré quand d'autres ont exulté de joie.
Merci Johanna Chabas. 11 ans au pouvoir, ça fait rêver Jean-Luc Mélenchon ?
Non, Madame Thatcher est un cauchemar. Elle a été d'une violence absolue contre les travailleurs anglais, elle a ruiné son pays, l'industrie a été détruite, et si le PIB a progressé, c'est exclusivement parce que ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire essentiellement la place économique et financière, Non, cette femme est un désastre. A-t-on souvent vu ? Elle a ouvert une période, d'ailleurs, qui n'est toujours pas close, d'ultralibéralisme. Elle a donné les exemples détestables. La seule chose que
je me sentirais de commun
avec elle, c'est la détermination à appliquer le mien de programme.
Vous vous en souvenez de ce moment, de son élection ? Vous vous souvenez comment vous l'aviez ressenti ?
Oui, surtout de la détresse, parce qu'on avait fait des caisses pour aider les mineurs anglais qui sont restés un an en grève dans des conditions affreuses. On n'avait jamais vu ça. L'Angleterre était le berceau des droits sociaux, parce que c'est là qu'il y a eu les premiers trade unions, le premier parti lié aux syndicats, etc. Donc on était tous soufflés d'une telle violence.
Oui. Merci infiniment Jean-Luc Mélenchon de vous avoir prêté au grand entretien d'Europe Soir. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques instants, le rappel de l'info et puis la musique avec Émilie Mazoyer qui ce soir, à l'occasion des 40 ans de la mort de Bob Marley, reçoit Anne-Sophie Yann, auteure de Bob Marley et la fille du dictateur aux éditions Grasset. C'est dans quelques secondes. Le rappel de l'info, Julien Pierce. Quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h.